Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. Pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous préférez m'écouter en podcast, il va être question du Bitcoin et des motivations de l'énigmatique inventeur de cette crypto-monnaie, Satoshi Nakamoto.
Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies.
Le mystère Satoshi, c'est le titre d'une géniale web-série diffusée sur Arte.tv, le site de la chaîne publique franco-allemande. En 6 épisodes de 10 minutes, on revient à la genèse du Bitcoin, aux traces laissées par son créateur et aux idéaux qui l'ont guidé. On comprend aussi très clairement les enjeux politiques cruciaux derrière cette technologie révolutionnaire. J'ai le plaisir d'être en ligne avec Rémi Forte, le réalisateur du mystère Satoshi. Bonjour Rémi.
Bonjour.
Le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie. Elle a été lancée en 2008, il y a 13 ans, donc au plus fort de la crise financière. Rémi, ce qui est intéressant, c'est que les retours sont quasi unanimes dans la communauté Bitcoin francophone pour dire que c'est très réussi. J'ai cru comprendre qu'au début, votre volonté en réalisant ce documentaire, c'était de déconstruire des visions inexactes qu'avaient les gens sur le Bitcoin.
Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, quand je suis tombé sur le Bitcoin, donc à l'hiver 2017, moi, ce qui m'a fasciné surtout, c'était la prouesse technologique, d'une part. En fait, le fait de réussir à utiliser la technologie peer-to-peer pour faire la monnaie d'Internet, une monnaie décentralisée, sans tiers de confiance et qui fonctionne. Donc ça, c'était le premier aspect. Et le deuxième, c'était que l'inventeur était anonyme, qu'on ne le connaissait pas. Et ça m'a complètement bluffé, ça m'a fasciné. Et voilà. Et en fait, c'était l'époque de la bulle de 2017. Donc, le Bitcoin grimpait vers les 20 000 dollars. Et dans les médias, on entendait surtout parler de la consommation énergétique, de la spéculation, de l'utilisation de cette monnaie pour des activités illégales. Et en fait, jamais vraiment de la technologie qui est dans le Bitcoin. Et ça, je trouvais ça vraiment dommage. Et c'est quelque chose qui moi, me manquait et qui m'a poussé, en fait, à vouloir faire le mystère Satoshi. J'avais vraiment envie de mettre en valeur cette technologie.
Ce qu'on comprend, c'est que le Bitcoin n'est pas parti de nulle part, en fait. Il est né dans la droite ligne des idées d'un mouvement, un mouvement nommé Cypherpunk, un mouvement libertarien qui avait pour idée de créer un réseau libre de crypto-monnaies pour stocker, déplacer de la valeur et faire que cela n'appartienne à aucune structure, donc aucune banque, aucun État.
Oui, c'est ça. En fait, donc Satoshi s'inscrit dans la lignée de ce mouvement, donc le mouvement Cypherpunk. Cypher pour chiffrer et Cypherpunk, en fait, c'était un jeu de mots aussi sur le mot cyberpunk, puisqu'en fait, on est au début des années 90. Donc, Internet commence à être utilisé, mais c'est encore quelque chose, c'est encore une niche. On a plusieurs centaines de sites qui sont en ligne, on a quelques milliers d'utilisateurs. Mais déjà, en fait, un groupe d'informaticiens voit poindre un petit peu le risque que nos données, que les données des utilisateurs d'Internet, passent par le prisme, en fait, des grandes entreprises ou des États. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui, dès le début, leur fait très peur, parce que pour eux, la surveillance, c'est le contrôle. Si vous vivez dans un monde qui potentiellement vous espionne, votre comportement va changer, va être influencé par cela. Et donc, les cypherpunks se sont dit, on a à notre disposition un outil, la cryptographie, pour pouvoir coder des solutions. Donc, ça a commencé par des moyens de communiquer de façon totalement privée, donc totalement chiffrée, des moyens d'aller sur Internet également de manière totalement privée. Et puis, ils avaient cette idée que la monnaie, qui fatalement passerait par Internet, par les ordinateurs, et puis maintenant à travers nos smartphones, la monnaie allait se dématérialiser. Et pour eux, il fallait très vite trouver un moyen de préserver la vie privée de nos échanges financiers. Alors, le problème avec la monnaie, contrairement à une communication, à une information, c'est qu'il faut qu'elle soit tout à fait fiable. Il faut qu'elle soit viable, qu'on ait confiance et puis qu'on puisse pas tricher, surtout. Et ça, c'était vraiment un écueil. C'était vraiment technologiquement quelque chose d'assez compliqué. Donc, il y a eu un certain nombre de tentatives dans les années 90 et au début des années 2000, mais qui se sont toutes soldées par des échecs. Certaines étaient centralisées, donc c'était pas vraiment dans la philosophie cyberpunk. Et puis,
Et là, il y a un mec qui réussit, en fait. Il y a un mec qui, en 2008, a un pseudo, c'est un pseudonyme, c'est Satoshi Nakamoto. Et le 31 octobre 2008, il publie un livre blanc, quelques pages, 8 pages, très rédigé, précise, où il explique le principe, le concept même du Bitcoin, le principe concret d'une cybermonnaie même, était né.
Exactement, exactement. En fin octobre 2008, on a quelqu'un qui sort vraiment de nulle part, hein, Satoshi Nakamoto, c'est la première fois qu'on en entend parler, qui sort de nulle part et qui publie sa Bible, donc les principes qui sous-tendent Bitcoin. Et puis, donc effectivement, au départ, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui y croit, parce que ça fait 20 ans qu'on essaie de faire ça et ça ne marche pas. Et 2 mois plus tard, donc début janvier 2009, il publie le code, il publie le programme et ça y est, le Bitcoin est lancé. Donc le 3 janvier 2009, le Bitcoin fonctionne et en fait depuis ce moment-là, il est toujours là, quoi.
Et ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait toujours pas qui est ce Satoshi Nakamoto. On ne sait pas si c'est une personne, on ne sait pas si c'est un groupe de personnes. Et en fait, le fait qu'on ne sache pas qui c'est ce qui rend le système solide parce qu'il n'est pas vulnérable.
Oui, exactement. En fait, Satoshi Nakamoto a voulu que Bitcoin soit décentralisé le plus possible. Et en fait, pour ça, il s'est dit, il va falloir que je disparaisse. Il va falloir que je m'efface au profit de mon programme. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui m'a intéressé dès 2017, dès le début, en fait. C'est que l'identité de Satoshi Nakamoto et son programme sont intimement liés, quoi. Si on connaissait l'identité de Satoshi Nakamoto, ou même s'il était toujours là, le Bitcoin n'aurait pas la même force et la même puissance qu'il a actuellement. Parce que à chaque fois qu'il y aurait une décision à prendre ou qu'on aurait des questions, on se tournerait vers cette personne ou ce groupe de personnes et il y aurait des directions. En fait, là, le Satoshi a vraiment voulu Bitcoin, a vraiment considéré Bitcoin comme un bien commun. Donc il s'est dit, il faut que je laisse la main et que tout le monde puisse participer, tout le monde puisse contribuer. Et s'approprier en fait cette nouvelle forme de monnaie, quoi.
Alors, ce qui est complètement dingue, c'est que ce Satoshi Nakamoto est multimilliardaire depuis plusieurs années sur le papier parce qu'il aurait lui-même miné, donc créé 1 million de Bitcoin auquel il n'a toujours pas touché, comme si c'était de l'argent thésaurisé, peut-être même de l'argent auquel plus personne n'aura accès un jour, dans la mesure où ce sont des codes qui peut-être que les codes d'accès de cette valeur ont peut-être été perdus ou détruits.
Oui, c'est ça. En fait, c'est vrai que ça, c'est un aspect aussi très fascinant de l'histoire de Satoshi. En fait, en janvier 2009, donc quand il lance le programme, il a besoin de le faire tourner. Et donc, il a quelques alliés, quelques informaticiens qui téléchargent le programme, qui le font tourner et en fait, qui gagnent des bitcoins en échange de ce travail-là. Puisqu'en fait, leur ordinateur tourne et donc une façon de compenser la dépense énergétique et de calcul de ces machines-là, c'est d'être rétribué en bitcoin fraîchement émis. Voilà. Et donc, Satoshi, forcément, il fait tourner son ordinateur et on estime que pendant plusieurs mois, il va miner. Et on estime qu'il va miner 1,1 million de bitcoins, donc ce qui aujourd'hui équivaut à une fortune, vraiment, ça fait de lui, je crois, la 20e fortune du monde. Mais en fait, il faut savoir qu'en décembre 2010, Satoshi publie son tout dernier post public et il continue d'échanger un petit peu par email avec les principaux développeurs de Bitcoin. Mais quelques mois plus tard, donc en avril 2011, il disparaît totalement. Plus personne ne recevra jamais de mail de lui. Et en fait, on se dit qu'il a coupé les ponts, il s'est débarrassé de tout ce qui pouvait le relier à Bitcoin. Et moi, mon intime conviction, c'est qu'il se serait débarrassé des clés privées de ce million de Bitcoin.
Donc, pour ne pas pouvoir peser sur le système, pour que personne ne puisse peser sur ce système. J'aimerais qu'on écoute ensemble un extrait de cette web-série « Le mystère Satoshi » diffusée par Arte.tv. Il y a également un côté militant. Je vous propose qu'on écoute un extrait ensemble. Il est question de Facebook.
Celui qui achevait la vie privée sur Internet. Le destructeur de monde.
The idea behind Libra is that sending money should be as easy and secure as sending a message.
Lui aussi voulait en être.
De plus en plus de corporations privées adoptent les technologies blockchain, comme par exemple Facebook avec son projet Diem, ex Libra. Facebook connaît un peu trop de choses à notre propos, que ce soit en termes de centre d'intérêt, notre réseau, nos connexions avec nos proches, professionnels, etc.
L'Internet des données personnelles avait été bâti sur une imposture, celle que l'exposition de soi serait gratuite et le resterait toujours.
Si Facebook se dote de sa monnaie, ce qui va se passer, c'est que tout ce qui tient du financier va également être connu par Facebook. Donc on va également partager notre activité financière.
L'utilisateur moyen paye le web au prix fort. Il abdique sa vie privée, sa liberté, son indépendance pour une dose régulière de narcissisme.
And I feel blessed to be in a position where we can make a difference in people's lives. And for as long as I'm here, I am committed to using our position to push for big ideas that I believe can help empower people.
Redonner le pouvoir aux gens. Le cynisme connaît le prix de tout, mais la valeur de rien.
Rémi Forte, on vient d'écouter un extrait de votre web-série documentaire « Le mystère Satoshi ». Il y a du ton dans cette web-série documentaire, des messages aussi politiques. Vous auriez pu ne pas parler de Facebook et pourtant, vous estimez qu'il y avait urgence à le faire.
Je pense que ça aurait été compliqué de pas parler de Facebook, tout simplement parce que ils ont choisi de lancer une monnaie numérique en surfant sur la vague Bitcoin, et qu'en fait on a bien vu ces dernières années que Facebook était un acteur auquel il était difficile de faire confiance. On a vu notamment avec le scandale de Cambridge Analytica que la masse de données qu'ils récupèrent, qu'ils stockent, qu'ils enregistrent et qu'ils monétisent et dont ils se servent, leur donne un pouvoir immense. Et en fait, Bitcoin, c'est tout l'opposé. Bitcoin, tout d'un coup, c'est redonner, en quelque sorte, le pouvoir aux individus. On n'a plus de dirigeants, on n'a plus de tiers centralisateurs, on a vraiment une communauté.
Et vous estimez que Facebook, en voulant battre monnaie, va trop loin, étant donné ce que Facebook sait déjà sur la population mondiale?
Oui, c'est ça, effectivement. En fait, nos transactions financières, nos transactions monétaires, c'est un petit peu la dernière information qui leur manque. Mais ce que je voulais dire aussi par l'appropriation de cette technologie, c'est que c'est pas seulement Facebook. On voit des États qui s'intéressent aux crypto-monnaies. On voit un certain nombre d'entreprises aussi qui s'y intéressent. Et en fait, aucune n'a cette volonté de décentralisation et d'open source.
De transparence.
Et de transparence que Satoshi a conféré au Bitcoin.
Vous mentionnez aussi évidemment les velléités de crypto-monnaie de la Chine et vous rappelez dans votre web-série documentaire eh bien qu'en Chine, tout est centralisé dans une seule et même application, WeChat pour ne pas la nommer, dans laquelle eh bien, il y a tout et dans laquelle les Chinois font et doivent tout faire.
Oui, c'est ça. Et là, le risque est encore plus grand parce que si on a toute votre vie dans un appareil et qu'on peut effectivement ensuite, grâce à ces données-là, vous interdire par exemple de prendre les transports ou rendre compliqué l'obtention d'un prêt. En fait, tout d'un coup, les données ont un impact extrêmement concret sur votre vie, sur votre existence. Donc on voit bien là la puissance des données privées sur les libertés individuelles des individus.
Rémi Forte, le mystère Satoshi a été très travaillé comme une docu-fiction. Il y a une narration que vous avez travaillée avec Julien Goetz, auteur du documentaire Une contre-histoire de l'Internet et de la série Datagull notamment. Pourquoi avoir choisi cette écriture pour parler du Bitcoin ?
Alors, on a choisi ce mode de narration parce qu'en fait, il y a une part d'imaginaire qui est très importante avec Bitcoin, avec Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, en fait, est un personnage de fiction. Quelqu'un ou un groupe de personnes lui ont donné un prénom, un nom, un âge, une nationalité, une façon de s'exprimer sur les réseaux. Et ben, en fait, on s'est approprié ce personnage pour raconter l'histoire du Bitcoin de l'intérieur.
En utilisant le jeu, d'ailleurs.
Exactement, c'est ça. Donc en fait, c'est Thibaut de Montalembert qui est la voix de Satoshi, donc c'est un acteur. Et puis ensuite, on a toutes les séquences en animation qui font vraiment en fait de Satoshi un personnage de fiction à travers les yeux duquel on raconte l'histoire de Bitcoin, on raconte la philosophie. En fait, on s'est mis dans les chaussures de Satoshi et on s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'il penserait de la crypto-monnaie de Facebook? Qu'est-ce qu'il penserait de l'appropriation de la technologie blockchain par les grandes entreprises, par les États, etc. Qu'est-ce qu'il penserait de la monnaie chinoise? Et on s'est amusé comme ça à en faire vraiment un personnage qui serait toujours là et qui observerait, parfois mi-amusé, parfois mi-désespéré, le devenir de sa création. Ça semblait en fait très important de parler de la création à travers son créateur.
C'est une démarche d'auteur aussi, mais justement, comment créer et peut-être ne pas aller trop loin ou ne pas dénaturer au final un personnage dont au final on sait peu de choses.
Oui, c'est vrai que c'était un grand défi parce que déjà il y avait d'abord une question de légitimité. C'est vrai que pendant assez longtemps, je me suis demandé si vraiment c'était une bonne idée de s'emparer de ce personnage et puis de lui faire raconter des choses, sachant que effectivement, comme vous le dites, Satoshi s'est très peu exprimé. On a des posts sur le forum qu'il avait créé, Bitcoin Talk, mais en fait, la plupart de ses posts sont des conseils et des remarques techniques sur le code de Bitcoin. Il y a quelques indices qui témoignent en fait d'une volonté cypherpunk de sa part, voilà, d'aller contre les grosses entreprises, d'aller contre les banques, d'aller contre les États. Mais au final, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a toujours choisi de rester extrêmement discret. Donc on a fait attention en fait de voilà, se servir des textes cypherpunk, d'utiliser quelques extraits aussi des posts de Satoshi et de rester dans sur ces rails là en fait.
Vous avez également beaucoup travaillé l'identité sonore et visuelle de cette web-série documentaire. On peut aussi signaler que ça a été tourné, préparé durant des périodes de confinement. Du coup, vous avez aussi fait des choix contraints d'images, d'interviews. Et vous avez notamment utilisé les webcams comme image principale des interviews des spécialistes qui interviennent dans votre documentaire.
Oui, avec la crise du coronavirus, on a choisi de mettre en place un dispositif qui passe par la visio, tout en gardant une caméra à l'extérieur et qui serait un petit peu soit au-dessus de l'épaule de l'intervenant, soit qui le décadrerait un petit peu. Enfin, on avait cette idée de rester dans le mystère, dans le côté thriller de cette histoire, parce qu'elle a vraiment un côté thriller. En fait, l'histoire du Bitcoin et de Satoshi Nakamoto, c'est un film d'espionnage. C'est de la science-fiction. C'est quelque chose qui est vraiment... On n'aurait pas pu l'inventer dans un film, quoi. C'est vraiment une histoire vraiment incroyable. Et avec Kevin Charvot, donc qui est le chef opérateur de la série, on a vraiment travaillé le dispositif pour que ça se ressente aussi durant les interviews. Et puis on a ensuite toutes les séquences d'animation qui sont dans cette lignée-là, donc qui ont des références très cyberpunk. Avec des références à Akira, à Tron, à Matrix, à Blade Runner, à tous ces films-là, toute cette génération de films de science-fiction que Victorien Aubineau, donc qui a fait l'animation, et moi-même avions en commun et que nous voulions retranscrire. Donc c'est vrai qu'on a vraiment pris soin. Également aussi avec Antoine Kerninon, qui a fait beaucoup de sound design sur la série. On a vraiment pris soin de créer un univers qui soit le plus cinématographique possible, en fait, pour justement illustrer cette part d'imaginaire qui vient avec Bitcoin et qui vient avec Satoshi Nakamoto.
Vous racontez l'histoire d'un rêve que l'on appelait Bitcoin, mais un rêve bien réel, un idéal qui est bien vivant. Et cette histoire, elle fascine. Il suffit de regarder les chiffres, par exemple, de vues sur YouTube du mystère Satoshi. Au moment où on enregistre cet entretien, on est une petite semaine après la mise à disposition sur YouTube des 6 épisodes de 10 minutes mis bout à bout. On est à 650 000 vues sur YouTube, plus de 15 000 likes. J'imagine que ça doit vous donner envie de poursuivre vos recherches et productions sur ce sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies en général.
Oui, complètement, complètement. Déjà, c'était très important, effectivement, que la série plaise à la fois aux gens qui s'y connaissent, qui connaissent les crypto-monnaies, mais aussi au grand public, puisque voilà, l'idée, c'était de faire découvrir cette technologie et cette révolution monétaire au plus grand nombre. Donc c'est vraiment très gratifiant et très plaisant que la série fonctionne. Et puis de toute façon, en fait, voilà, c'est un sujet qui est sans fin. Quand on commence à s'intéresser au Bitcoin, il y a souvent cette référence au terrier d'Alice au Pays des Merveilles. En fait, on tombe dans le terrier et ça ne s'arrête plus. Et je pense que les prochaines années vont être aussi complètement dingues, riches en rebondissements, en événements dans la sphère Bitcoin. Donc c'est effectivement un secteur que moi, j'ai l'intention de couvrir encore. Voilà, parce qu'il y a tellement à dire et c'est pas prêt de s'arrêter.
En tout cas, Rémi Forte, vous serez toujours le bienvenu dans l'atelier des médias pour en parler. Merci à vous.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je rappelle que votre web-série documentaire « Le mystère Satoshi aux origines du Bitcoin » est à voir sur arte.tv et sur YouTube. À bientôt. Comme chaque semaine, on termine cette émission avec Mondoblog Audio. Mondoblog, c'est la plateforme des blogueuses et blogueurs francophones de RFI où écrit Ousmane Mamoudou depuis le Niger. Il nous parle, je vous le donne en mille, du Bitcoin.
Je pense que si beaucoup de personnes ne comprennent pas ce qu'est le Bitcoin, c'est parce qu'ils ne savent pas comment fonctionne une monnaie de manière générale. Déjà que le système monétaire classique est très difficile à comprendre, surtout lorsque tout comme moi, vous aussi n'avez rien dans vos poches. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie. Elle n'est pas palpable. Elle est virtuelle. Il n'y a aucune pièce ou billet de Bitcoin en circulation dans le monde. Cette monnaie est en fait une suite de chiffres et de lettres. Chaque transaction, c'est-à-dire un achat ou un transfert d'argent, est cryptée, rendue illisible, codée. Transparence et anonymat sont les maîtres mots du Bitcoin. Le Bitcoin est également une monnaie décentralisée. Il n'y a aucune institution ni directeur général qui la gère. Aucun banquier qui surveille votre portefeuille. En fait, le Bitcoin n'appartient à personne. Cette crypto-monnaie est gérée et régularisée par les utilisateurs. Des gens comme vous et moi, finalement. Un peu à la manière dont Wikipédia fonctionne, par exemple. Comme toutes les monnaies, le Bitcoin tire sa valeur de la confiance des utilisateurs. Mais personnellement, je pense que la valeur du Bitcoin provient du fait que c'est une monnaie décentralisée, gérée par une communauté qui croit profondément en certaines valeurs. C'est finalement une sorte de réseau social pour geeks. Mais bon, moi je ne suis pas un expert en économie, hein, mais voilà ce que j'ai compris du Bitcoin après des heures de lecture sur Internet en googlant ce mot barbare sur mon ordinateur. Un des avantages du Bitcoin vient du fait que cette monnaie porte en elle des solutions informatiques à certaines problématiques sociales telles que les valeurs de transparence, de confidentialité, d'égalité, d'inviolabilité et de partage. Elle est comme un bien commun décentralisé, offrant à tous les mêmes privilèges, sans distinction de race, d'ethnie ou de classe sociale. Largement adopté par une grande communauté, le Bitcoin incarne donc à la fois une monnaie, une équité et un réseau social. C'est ça sa force. Mais attention, le Bitcoin n'a pas tout bon. N'espérez pas devenir millionnaire avec des investissements massifs en Bitcoin. car cette monnaie reste extrêmement volatile. D'ailleurs, récemment, on a vu comment un petit tweet de l'excentrique milliardaire américain Elon Musk a failli tout faire capoter. Le Bitcoin avait chuté d'un coup après qu'il ait tweeté hashtag Bitcoin accompagné d'un cœur brisé et d'une image d'un couple envisageant une rupture. Et j'ajouterai ceci, si vous êtes un ami de Greta Thunberg, eh bien sachez que la fabrication du Bitcoin nécessite l'utilisation de puissants ordinateurs qui consomment beaucoup, mais alors vraiment beaucoup d'énergie. Bref, pas très bon pour la planète. Donc, pas de grande histoire d'amour en vue entre Bitcoin et écologie. En tout cas, pas pour le moment. Et si malgré tout, vous vous sentez prêt pour investir dans l'OVNI numérique de la planète financière, mon conseil est le suivant. Commencez d'abord par un montant que vous êtes prêt à perdre. Car rien n'est complètement sûr avec le Bitcoin.
C'était Ousmane Mamoudou depuis Niamey au Niger. Vous pouvez lire ses billets sur les nouvelles technologies et tout ce qui a trait au numérique, mais aussi à son pays, le Niger, sur son blog lesmotsdupeuple.mondoblog.org. Un Mondoblog audio préparé comme chaque semaine par Camille Deloche. C'est la fin de cette émission enregistrée avec Simon de Creuse et réalisée par Ludivine Amado. Si vous aimez l'Atelier des médias, je vous rappelle que vous pouvez l'écouter en podcast chaque samedi avant même qu'il soit diffusé sur RFI. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Podcast Addict ou encore l'appli Radio France. Nous sommes disponibles partout, librement et gratuitement grâce au flux RSS. Une adresse mail pour contactez l'émission atelier@rfi.fr. Je m'appelle Steven Jambeau, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.